Je vais vous présenter Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche. Et donc, je vais commencer par faire une petite biographie pour que vous puissiez mieux comprendre l'œuvre. Donc, Friedrich Nietzsche est un philosophe allemand, également poète, pianiste et compositeur, né le 15 octobre 1844 à Röcken et mort le 25 août 1900 à Weimar. À travers des œuvres telles que La naissance de la tragédie, Humain trop humain, Ainsi parlait Zarathoustra ou encore Ecce Homo, il a remis en cause les valeurs religieuses, morales, politiques et philosophiques de la culture occidentale du XIXe siècle. Toujours d'actualité, ses ouvrages ont exercé une influence considérable sur de nombreux artistes et philosophes postérieurs et paraissent essentiels à la compréhension de la société contemporaine. Élevé dans un milieu cultivé, Nietzsche est un élève brillant qui se lance sur les traces de son père, mort quand il avait 6 ans, en étudiant la théologie. Vers 17 ans, il se passionne toutefois pour la poésie et rêve de devenir musicien au grand désarroi de sa mère. Toujours aussi bon élève, il réussit ses examens et poursuit ses études en théologie à l'université de Bonn. C'est à ce moment-là que Nietzsche commence à se questionner sur la religion et de la philosophie, en découvrant les ouvrages de Schopenhauer, qui va jouer un grand rôle dans sa vocation philosophique. Nommé professeur de philologie à l'université de Bâle après ses études, il commence l'ébauche de son premier ouvrage, La naissance de la tragédie, dont la publication, très controversée en 1872, nuit à sa réputation. Mais il peut heureusement compter sur le soutien de son ami Richard Wagner, rencontré quelques années plus tôt. Néanmoins, cette amitié ne dure pas longtemps, notamment en raison de l'antisémitisme de l'épouse de Wagner. En 1875, Nietzsche tombe gravement malade, car il souffre de crises de paralysie et de forme aux têtes. Ce n'est qu'en 1878 qu'il va définitivement couper les ponts avec le couple Wagner et qu'il va surtout publier Humain trop humain. Et c'est également cette année qu'il se rapproche du philosophe Paul Rey qui deviendra un de ses grands amis. Toujours aussi malade, il obtient une pension et abandonne son poste de professeur pour alimenter ses réflexions et se soigner dans diverses villes d'Italie. C'est lors de ses voyages qu'il rencontre Lou Andrea Salomé, avec qui il vivra sa seule histoire d'amour, purement platonique. À cette époque, il écrira aussi l'une de ses œuvres les plus connues, donc Ainsi parlait Zarathoustra que je vais vous présenter, publiée dans son intégralité en 1885, époque à laquelle il commence à sombrer dans la folie, après la publication de Par-delà le bien et le mal en 1886, Le cas Wagner en 1888 et Le crépuscule des idoles la même année. Donc, au début de l'année 89, il est pris d'une crise de démence et peu après, il se prend pour le Christ et Dionysos, finissant par devenir partiellement paralysé. Donc, il est alors placé en institution et finit les 10 dernières années de sa vie dans un état quasi végétatif avant de mourir à Weimar le 25 août 1900. Donc, lorsqu'il bascule dans la folie, sa sœur Elisabeth entreprend de publier ses derniers ouvrages et déforme certaines de ses idées afin de les rapprocher des thèses nazies auxquelles elle a adhéré. Elle va ainsi faire passer la volonté de puissance comme l'œuvre résumant toute la pensée de Nietzsche, alors qu'il s'agissait d'un projet d'ouvrage totalement abandonné et inachevé par Nietzsche. Malgré son immense talent, il n'est pas vraiment reconnu en son temps comme un grand philosophe. Il faut en effet attendre le XXe siècle pour que son œuvre influence de nombreux artistes, philosophes et autres penseurs, dont notamment Freud. Rattaché donc à tort au nazisme et au fascisme, ses œuvres ne sont devenues une référence que dans les années 60. Donc maintenant, je vais vous présenter Ainsi parlait Zarathoustra. Donc Ainsi parlait Zarathoustra, sous-titré Un livre pour tous et pour personne, est souvent considéré comme l'un des écrits philosophiques les plus importants du monde contemporain, où Nietzsche condamne le christianisme et caricature l'idée d'écriture sainte et de personnage saint. Plusieurs de ses doctrines y sont en effet exposées, telles que la notion de surhomme, la récurrence éternelle, le nihilisme et la célèbre phrase Dieu est mort que je vais vous expliquer. Cet ouvrage est composé de 4 parties précédées d'un prologue et comprend des discours, des paraboles, des poésies et des chants étalés sur 4 périodes de 10 jours. Donc, comme son nom l'indique, il relate le parcours de Zarathoustra, un poète similaire aux évangiles de la Bible. Donc, à l'origine, Zarathoustra est un prophète perse qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ et qui est à l'origine du zoroastrisme, considéré comme la première religion monothéiste, pardon, présente encore aujourd'hui dans des pays tels que l'Inde, l'Azerbaïdjan ou l'Iran. Il est le premier prophète à considérer l'univers avant tout comme un combat entre le bien et le mal, et donc il possède une vision très manichéenne du monde que condamne Nietzsche. C'est d'ailleurs pourquoi il choisit cette figure mythique dont il fait le père du surhomme, afin justement d'annoncer la révélation du surhomme, et surtout afin de se repentir et de répandre une doctrine qui dépasse justement cette vision du bien et du mal. Ainsi, ce sage enseigne à l'humanité les doctrines du surhomme et de l'éternel retour. Mais ce qui est assez important dans l'œuvre et qu'on peut souligner, c'est qu'il connaît d'importantes difficultés lorsqu'il tente de communiquer sa philosophie à ses semblables. Et ce qui l'oblige à s'y reprendre à plusieurs fois et surtout à envisager de nouvelles méthodes pour convaincre ses semblables. Donc Zarathoustra est évidemment le personnage principal du livre et on peut dire que les autres personnages qui interviennent fonctionnent comme des allégories ou des prétextes à son discours, c'est-à-dire que le livre semble un peu porté par sa seule parole donc de Zarathoustra et les personnages sont un petit peu des figurants dans la fiction. À 30 ans, Zarathoustra décide de s'isoler dans la montagne afin de méditer. Et au bout de 10 ans, il quitte sa solitude et descend de la montagne à la rencontre des hommes pour leur transmettre son enseignement. Donc ça, c'est le début du livre que je vais un petit peu vous raconter. Il traverse la forêt et rencontre un vieil ermite pieux avec qui il discute. Mais il ne lui révèle pas que Dieu est mort pour ne pas le déstabiliser dans sa foi. Après, au terme de la discussion, le vieil homme lui demande de retourner dans la montagne ou dans sa solitude. Et Zarathoustra refuse et poursuit son chemin jusqu'à une ville où il s'adresse à une foule rassemblée à l'occasion du spectacle d'un funambule. Donc, devant cette foule, il tient un discours où il expose sa vision du surhomme. Mais les gens se moquent de lui parce qu'ils ne comprennent pas le sens de son propos. Donc Zarathoustra, il vit un petit peu ça comme un échec, mais il ne se laisse pas abattre, et il continue à enseigner, mais cette fois-ci à un public plus restreint. Et il commence par la parabole des trois métamorphoses. Donc la parabole des trois métamorphoses, il dit « Je vais vous dire trois métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. » Donc en fait, ces animaux représentent des phases de la construction de l'homme, durant laquelle il se dépouille peu à peu de ses anciennes croyances pour en inventer de nouvelles. Donc, d'après Nietzsche, ils sont des allégories du combat de l'homme que l'homme doit livrer pour se libérer des valeurs chrétiennes et de la morale et donc devenir un surhomme. Le chameau correspond ainsi à la phase d'accumulation de connaissances sans réflexion. Le lion à celle de destruction de l'ensemble de la connaissance, donc de ce que l'on tenait pour vrai. Et l'enfant correspond à la phase de la création pure de nouvelles connaissances et d'une nouvelle morale. À travers cette parabole, Zarathoustra souligne une fois de plus son attachement à l'indispensable métamorphose de l'homme vers le surhomme. Donc, aux yeux de Nietzsche, l'être humain est la conséquence de l'évolution naturelle. Autrement dit, il constitue simplement une étape au-dessus de l'animal, même s'il est doué de la conscience et de l'intelligence. Pour Nietzsche, biologiquement, il n'est que très peu différent des autres animaux. Selon lui, il devient impératif pour l'homme de se différencier de l'animal en aspirant à un état supérieur qu'est le surhomme. Il désigne en effet l'homme comme étant une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde sur l'abîme. Selon lui, cette transformation implique nécessairement la volonté de puissance, la liberté, la générosité, le dépassement de soi et la capacité à transcender la mort. Donc Nietzsche introduit en effet dans cet ouvrage la notion de surhomme, fondamentale dans sa philosophie, qui constitue un état psychologique individuel et supérieur auquel Zarathoustra aspire à arriver et qu'il enseigne à ses contemporains, enfin qu'il essaye d'enseigner à ses contemporains. Il les encourage donc à devenir des hommes libérés d'absolument toute croyance superstitieuse, afin de prendre conscience de leur place sur Terre. Une fois cet état atteint, l'homme deviendrait pour Nietzsche. Non, l'homme deviendrait, pardon, d'après Nietzsche, pour le surhomme, une dérision ou une honte douloureuse. Donc, en effet, l'enjeu de la philosophie de Nietzsche est de renverser la table des valeurs. Autrement dit, de penser l'homme à partir de lui-même et non plus à partir de Dieu. Donc, c'est une pensée assez révolutionnaire. La religion est en effet perçue dans le récit comme une entrave à l'évolution de l'homme. Il est en effet impossible pour un homme qui continue de s'accrocher à une croyance en Dieu de parvenir à l'état de surhomme. Selon Nietzsche, Dieu est incompatible avec la dignité de l'homme, avec l'affirmation de la vie. En effet, d'après Nietzsche, Dieu et son Fils, le Christ, sont synonymes de souffrance et de mort, alors que l'homme représente une affirmation de la vie. Il ne peut donc s'affirmer qu'en s'opposant à Dieu, dont la mort devient la condition de sa libération. Dans Zarathoustra, il dit « Homme supérieur, maintenant seulement, la montagne de l'avenir humain va enfanter. Dieu est mort, maintenant, nous voulons que le surhumain vive. » Donc, pour reprendre un petit peu l'histoire, au cours de son épopée, Zarathoustra, il subit de nombreuses pressions, dues à la présence de certains personnages assez inquiétants, enfin qui représentent des figures assez inquiétantes, comme le nain ou le berger. Mais néanmoins, la plus pesante pour lui, la plus effrayante, c'est celle de l'éternel retour. Donc, encore une fois, l'éternel retour, c'est un thème très important dans la philosophie de Nietzsche, qui revient notamment dans Zarathoustra, qui présente dans ce livre. Donc, c'est un concept qui est central dans la philosophie de Nietzsche, mais qui l'hérite des stoïciens. Donc, les stoïciens croyaient en une vision cyclique de l'univers, tout revenant un jour à l'eau ou l'autre. Épictète, notamment, affirmait que tout ce qui arrive est déjà arrivé et arrivera de nouveau. Donc, l'éternel retour constitue le fondement sans lequel l'émergence du surhomme ne peut se produire, selon lequel tous les événements sont appelés à se produire encore et encore pour toute l'éternité. Donc, dans Zarathoustra, tout va, tout revient. La roue de l'existence tourne éternellement, tout meurt, tout refleurit, le cycle de l'existence se poursuit éternellement. Donc c'est une doctrine qui, d'une certaine manière, renvoie à un sentiment de futilité de l'existence, que l'on retrouve dans le nihilisme, qui est une théorie philosophique qui affirme l'absurdité de la vie, l'inexistence de la morale et de la vérité, qui elle aussi joue un rôle majeur dans la philosophie de Nietzsche, qui a été le premier à le désigner comme l'ennemi des civilisations modernes, en l'accusant de ruiner les fondements de la morale. Pour lui, le fait que la société soit moins attachée aux valeurs religieuses que par le passé sert de point de départ à son argumentation. Étant donné que nous ne croyons plus que nos existences sont dirigées par une volonté divine, nous sommes alors confrontés au vide qui remplace nos croyances. Et donc, d'après Nietzsche, nos vies sont donc dépourvues de sens et nous n'avons pas la volonté de créer ou de nous transformer en de nouvelles entités. Donc ainsi, Nietzsche met en garde contre une société où l'absence de croyance conduira à des existences médiocres, faites de complaisance et de confort. C'est pour cela qu'à travers Zarathoustra, il appelle à transcender notre condition humaine traditionnelle, en nous affranchissant des notions de bien et de mal, et en devenant des hommes qui ne sont pas gouvernés par des croyances superstitieuses, donc des hommes aptes à évoluer, on va dire. Donc dans Zarathoustra, qu'est-ce que tout le monde sait aujourd'hui? Ceci peut être que le Dieu ancien ne vit plus, le Dieu en qui tout le monde croyait jadis. Tu l'as dit, répondit le vieillard attristé. Et j'ai servi ce Dieu ancien jusqu'à sa dernière heure. Mais maintenant, je suis hors de service. Je suis sans maître, et malgré cela, je ne suis pas libre. Aussi ne suis-je plus jamais joyeux, si ce n'est en souvenir. Donc enfin, dans la dernière partie, Zarathoustra reçoit dans sa montagne des hommes qu'il qualifie ironiquement de supérieurs et s'adresse à chacun d'entre eux. Donc bien qu'il les considère supérieurs au peuple, il les trouve néanmoins faibles en raison de leur incapacité à s'élever, à se surpasser et donc à faire la démarche vers le surhomme. Il parvient toutefois à résister à la tentation de les avoir en pitié, bravant ainsi l'obstacle majeur avant la surhumanité. Donc en fait, Zarathoustra est convaincu que la notion de pitié est l'une des entraves que l'espèce humaine se doit de surmonter. La pitié, comme il la représente, c'est un sentiment qui exprime ceux qui sont trop faibles pour accéder à l'état de surhomme. Donc Nietzsche pense que la pitié est principalement caractérisée par deux systèmes, le système religieux et le système gouvernemental. Ainsi, la religion fait de l'homme une créature trop faible pour se secourir elle-même, et de ce fait, Dieu devient un être nécessaire. Donc d'après Nietzsche, la pitié est donc le fondement de la croyance religieuse qui entrave l'avènement du surhomme. À la fin de l'ouvrage, Zarathoustra choisit finalement de retrouver la joie et l'amour dans la solitude de la montagne, car il a enfin compris que personne ne pourrait le suivre, ne pourrait vraiment comprendre ce qu'il a à dire. Donc, petite conclusion pour finir. Ayant perdu la foi vers 17 ans, Nietzsche sera toute sa vie à la recherche de la vérité. À travers ses ouvrages, et notamment Ainsi parlait Zarathoustra, il remet en question la culture occidentale et critique les valeurs humaines, de la religion à la politique, en passant par la philosophie. Il développe donc une philosophie critique, dans laquelle il oppose les valeurs traditionnalistes, notamment présentes dans le christianisme, aux valeurs défendues par un surhomme, individualiste et indépendant. Rejetant toute forme de surnaturel, il déclare que Dieu est mort, et que c'est en lui-même que l'homme doit trouver la force de se dépasser pour devenir ce surhomme, c'est-à-dire l'idéal de ce que chaque homme souhaite atteindre.